ils allaient pour Bueneco.
Tout de suite sur Radio Dio. Tout de suite sur Radio Dio avec 15 minutes de retard, c'est qui ou quoi? BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio, une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Ce soir, c'est la 28e émission de Qui ou quoi. Et ce soir, j'ai eu envie de tenter quelque chose. J'ai eu envie d'organiser l'émission autour d'un axe unique, là où en général, je parle de trois livres. En général, d'ailleurs, ces trois livres sont choisis de façon plutôt aléatoire, même si, on peut le dire, il y a toujours au moins une BD. Et de BD, il va être question ce soir. À l'occasion de la sortie plutôt récente de sa dernière BD, je vais vous parler d'Émile Bravo, sa vie, son œuvre, ou tout du moins une partie. En conséquence de quoi ce soir, c'est un qui ou quoi spécial BD, une spéciale Émile Bravo, une spéciale Jules, une spéciale, je sais pas moi, mais en tout cas c'est une spéciale qui ou quoi. On verra bien si c'est si spécial que ça, mais en tout cas, c'est maintenant. Et donc, je vais commencer cette émission par une éloge de la librairie. Parce qu'en fait, si je vous parle d'Émile Bravo, c'est grâce à une librairie. Pas une émission de radio, pas un magazine, et encore moins internet, mais donc grâce à une librairie. Le fameux chaînon de la chaîne du livre entre le distributeur et le lecteur. Celui qui est en train de disparaître face à Amazon et autres liseuses parce que c'est plus facile d'acheter sur internet à, je sais pas moi, 5% sur Sioule par exemple. Bref, n'empêche que sans le libraire, je n'aurais jamais découvert Émile Bravo et c'est rien de dire que je serais passé à côté de quelque chose d'important. Et je vais essayer de vous en convaincre ce soir. C'était donc dans une librairie BD parisienne, la bien-aimée librairie Super-Héros, qui se trouve à côté de Beaubourg. Il y avait un avis sur une BD. Bien évidemment, cet avis vantait les mérites de l'ouvrage, et cet ouvrage, c'était le premier épisode des épatantes aventures de Jules, l'imparfaite du futur. Mais avant de vous parler de ce chef-d'œuvre, revenons rapidement sur la biographie d'Émile Bravo. Comme d'habitude pour la biographie des auteurs de BD contemporains, Wikipédia et Internet sont nos amis. On y apprend donc qu'Émile Bravo est un dessinateur français d'environ 55 ans, qu'il habite à Paris, bon ça on s'en fout un peu, et qu'il est l'auteur d'une vingtaine de livres. On y apprend également qu'il est proche d'une partie des auteurs de l'association parce qu'il a partagé avec eux des ateliers dans les années 90. Sorti de ces éléments biographiques, nous ne saurons rien d'autre et nous devrons nous tourner vers ces livres. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parlons donc de ce chef-d'œuvre qui est L'imparfait du futur. L'imparfait du futur, c'est la première aventure de Jules, qui en compte 6 en tout. Jules, c'est un petit garçon ordinaire, plutôt un peu cancre, et surtout avec un papa débile, une maman belle et gentille, et un petit frère insupportable. Et ce Jules, eh bien évidemment, comme le porte le nom de la série, il va lui arriver des aventures assez épatantes. L'imparfait du futur raconte l'histoire du dit Jules, qui est sélectionné par une espèce d'équivalent de la NASA qui s'appelle l'ASM et qui a réussi à maîtriser la vitesse de la lumière. L'ASM a décidé donc depuis cette découverte d'envoyer des scientifiques et des enfants parmi les plus intelligents du monde pour partir étudier l'étoile la plus proche de la Terre, mais pas le Soleil. Jules n'est pas vraiment bon élève, ni sportif ou quoi, mais bon, bien qu'il soit étonné par cette sélection, Eh ben, il part pour l'espace, et nous avec. Et même si l'envie est forte, je ne vous en raconterai pas plus. Les épatantes aventures de Jules font partie de ces bandes dessinées qu'on rêve de faire découvrir à un enfant qu'on connaît. Les adjectifs superlatifs ne manquent pas pour parler de ces aventures. Passionnantes, drôles, intéressantes, bien dessinées, avec plusieurs degrés de lecture, bref, plein de superlatifs, j'en oublie sûrement. On va essayer de les prendre et de les détailler un par un, ces superlatifs. Bien évidemment, la première chose qui nous vient quand on lit L'Imparfait du Futur, c'est qu'on n'arrive pas à décrocher. Le scénario, il est inattendu et rondement mené. Les péripéties s'enchaînent sans temps mort, et une fois qu'on a fini la BD, on se souvient de tout, ce qui est pour moi un élément assez important. À l'inverse de toutes ces séries qu'on peut binger sur Netflix et sur Internet quand à télécharger, et bien ça pour moi c'est un signe fort d'une œuvre réussie. Quand on se souvient à ce point de ce qu'est le récit et de sa construction, quand il a réussi à trouver une résonance et un chemin dans notre cerveau pour y rester, c'est que l'œuvre est importante. Et c'est le cas de Jules. Une histoire passionnante, divertissante, pleine de rebondissements, etc. Dit comme ça, ça sonne un peu comme une quatrième de couve, mais bon. En plus d'être passionnante, les aventures de Jules sont extrêmement drôles. Je sais bien que l'humour, c'est quelque chose de très subjectif, donc je ne vais vous donner là que mon avis, mais Jules fait partie de ces BD qui me font rire. Chaque gag est juste bien vu. Ça se situe un peu entre humour absurde, blague méga relou ou très très simple, et blague référencée. Celles qui me reviennent quand je pense à cette BD, pour moi, ce sont un peu les référencées. En particulier le capitaine Takanaka, qui parlera à ceux qui l'ont lu, et avec sa tête de capitaine Flamme, qui ne parle qu'à un quarantenaire comme moi. De toute façon, je vous le répète, dans cette BD, tout le monde y trouve son compte. Tout le monde en trouve son compte, ce qui me mène à vous parler d'un des autres points forts des aventures de Jules, la capacité qu'a Émile Bravo dans ses BD à s'adresser à plusieurs publics. En fait, dans toutes ces histoires, dans toutes les aventures de Jules, il y a plusieurs degrés de lecture. Le premier, il est très basique, hein, si on est jeune, on y voit juste une histoire d'aventure. À ce niveau, on va passer à côté de certains aspects du récit, mais que nous, les plus grands, vont pouvoir découvrir en relisant, en lisant la chose ou en la relisant quand les jeunes auront grandi. Personnellement, au-delà de l'aventure, moi j'y vois, dans L'Imparfait du Futur, une critique de la nature humaine, de sa folie, une critique et une présentation de l'eugénisme, bref, plein de choses. Dans une BD pour ados quand même, là. Donc, moi je dis que tout ça, c'est un tour de force. Niveau pluralité de degrés de lecture, il y a un autre élément à ajouter pour les aventures de Jules. Il ne faut pas oublier que ces aventures, elles sont parues en prépublication au tout départ dans le magazine pour ados Okapi. Et en fait, ces aventures, elles s'inscrivaient dans une démarche de vulgarisation scientifique. Sauf que, ici, on est à l'opposé de ces BD didactiques qu'on nous vend régulièrement, genre les histoires de l'oncle Paul ou l'histoire de France en bande dessinée. Ou encore ces BD qu'on donne sur les aires d'autoroute les jours de départ des grandes vacances, qui sont mal dessinées et surtout dont l'intention pédagogique prend le dessus sur l'histoire. A l'inverse, Jules raconte une histoire et nous apprend des choses en même temps, sans pour autant qu'il y ait une hiérarchie entre les deux aspects du livre, ce qui est à mon sens encore un tour de force. Par exemple, dans L'Imparfait du Futur, il y en a un qui me vient à l'esprit. Je n'ai jamais rien compris au paradoxe temporel induit par le voyage dans l'espace à la vitesse de la lumière. Jamais rien compris, jusqu'à ce que j'ai lu L'Imparfait du Futur, justement. Et même si je suis incapable de vous le réexpliquer maintenant à l'antenne, je vous jure que quand on le lit, on le comprend et on a l'impression d'être intelligent. C'est trop fort. Juste une petite aparté à propos du voyage et des paradoxes temporels, vous pouvez aussi regarder ou lire L'Univers élégant de Brian Greene, mais ça c'est une autre histoire et peut-être une autre émission. Je vais finir de vous parler des épatantes aventures de Jules en vous parlant du dessin, parce que j'en ai pas encore parlé. Loin d'être expérimental ou typé, le dessin d'Émile Bravo, s'inscrit dans une veine dite de ligne claire. La ligne claire, c'est un genre qui a été popularisé par Tintin. pour vous dire en gros. C'est ce genre de dessin. C'est réaliste, mais quand même stylisé. Fait à partir de crayonnés, quoi. En fait, le dessin d'Émile Bravo, sans être renversant, en fait, lui, il le maîtrise suffisamment pour qu'il porte à la perfection son intention, c'est-à-dire les multiples degrés de lecture et surtout la découverte, la vulgarisation scientifique, etc. Et en fait, quelque part, avec ce dessin qui est entre lignes claires et propos compliqués, il se situe encore à la croisée des chemins. Sous un premier abord BD pour ados, un adulte pourra tout à fait y retrouver son compte, car au final, il est loin d'être impersonnel et inintéressant. Émile Bravo, il a su retrouver cette espèce de naïveté de la BD franco-belge qui a forgé la BD qu'on connaît aujourd'hui dans le genre franquin. Et en fait, ce type de dessin, il transcende clairement les âges. Vous l'avez compris, je conseille énormément cette série. Tous les tomes ne se valent pas, hein, j'ai mes préférés moi, en gros 1 sur 2 sur les 6 qui sont parus. Le premier, L'imparfait du futur, est contrairement à son titre presque parfait. C'est pour ça que je l'ai utilisé pour introduire, pour commencer l'émission de ce soir. Le second, La réplique inattendue, est moins réussi. Le troisième, Presque enterré, vaut quasiment le premier pour moi. Et puis après viennent Un départ précipité, le quatrième, qui est un petit peu moins bien. La question du père, qui est très très rigolo. Et puis enfin, Un plan sur la comète. Chaque tome a son thème scientifique. La génétique pour le second, pour le deuxième. La spéléologie et la pollution pour le troisième. Le paradoxe temporel pour le 4. La géologie pour le 5, etc. etc. Lisez L'imparfait du futur, le premier tome des épatantes aventures de Jules, et de toute façon, je vais finir là-dessus, vous m'en direz des nouvelles.
A bull's not seen Cleopatra. It's been almost now a year. How I wonder where she's at, and I wish the old girl were here. Abdul yearns for Cleopatra in the early morning sun. Abdul loves Cleopatra. See, she's still the one. You know, I love Cleopatra. I'm just grateful that I know that old girl, even though I wonder where she's at, as I wander through this world. And Abdul yearns for Cleopatra. Abdul takes her or takes none. Abdul loves Cleopatra. She's still the one. All right, Leroy, tell them. Cleopatra, take my patience and test it.
Test it.
Cleopatra, take your time as you may.
As you may.
My time has been well spent.
Well spent.
I dug, cleaned up my tent. You'll like it when you see it someday. Right. I will wait for Cleopatra, for I know my time must come. And I'm getting ready for wherever she'll be at, 'cause I'm getting stronger now and not so dumb. And Abdul yearns for Cleopatra in the early desert sun. I love Cleopatra, she's still the one. I love Cleopatra, she's still the one. Still the one,
still the one.
I love Cleopatra. Ooh. She's still the one,
still the one.
Abdul loves Cleopatra. She's still the one. I love Cleopatra. she's still the one.
C'était Jonathan Richman avec Abdul and Cleopatra. On est de retour sur Radio Dio dans Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 895. Et avant de repartir de vous parler de livres, je voulais juste faire une petite aparté musique. Parce que cette semaine, en fait, j'ai entendu du Jonathan Richman sur une radio. Et je pense qu'on n'entend pas assez Jonathan Richman à la radio. C'est pour ça que j'ai décidé de corriger cet état de fait ce soir en vous passant ce petit Jonathan Richman. On retourne au livre. Donc, Émile Bravo, l'auteur de Jules, n'a pas fait que des albums de Jules. Il a fait plusieurs courtes BD et des livres pour enfants entre deux tomes de Jules. Je vous parle maintenant des plus intéressants. En fait, avant un autre morceau de Jonathan Richman, donc, je vais vous parler de deux autres livres d'Émile Bravo, plus anecdotiques à mon sens, mais dont j'avais quand même envie de vous parler et qui montrent une autre facette de son talent, qui, même si elle s'exprime dans les Jules dont je viens de vous parler, ou encore dans le Spirou dont je vais vous parler après, même si c'est présent dans ses livres, c'est moins mis en avant. Et en fait, ce trait de caractère, c'est son humour. J'en ai parlé donc dans le Jules, mais dans les Contes palpitants des Sept ours nains, paru au Seuil Jeunesse, ou encore dans Le Jardin d'Émile Bravo, paru au Requin Marteau, il n'est quasiment question que de ça. En fait, Émile Bravo, il est drôle, mais genre très drôle, quoi. Dans les Contes palpitants des Sept ours nains, il s'amuse avec les personnages des contes les plus connus, Boucle d'Or, la princesse, le chevalier, le joueur de flûte de Hamelin, les Sept nains, le petit Pousset, etc. Il mélange le tout, et puis ça donne n'importe quoi, il faut bien se l'avouer. Alors bon, c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal avec ces récits pour enfants qui jouent avec les codes des classiques pour enfants. Les enfants, ils n'ont pas forcément les codes, donc ils passent forcément à côté des aventures des Sept ours nains qui font référence à Boucle d'Or et à Blanche-Neige et les Sept nains. Et donc ils passent forcément à côté de cette aventure où les Sept ours nains, ils rentrent chez eux et puis ils retrouvent Boucle d'Or qui dort dans leur lit. Quelque part, c'est vrai qu'on est encore à cette croisée des chemins où l'adulte et l'enfant peuvent lire le même livre. L'enfant peut lire le livre et se laisser porter par l'histoire quand l'adulte, lui, goûte l'absurdité et le jeu avec les codes. Mais bon, il se trouve qu'un autre auteur jeunesse s'est beaucoup amusé à faire ça, il s'appelle Vincent Malone, et même si au premier abord, moi j'ai trouvé ça rigolo, ce fait de mélanger les contes, je crois que sa démarche, c'est d'abord de s'adresser aux parents pour se faire de la thune. Parce que, comme regarder les parents, ça va vous faire rigoler, vous allez dire des bêtises à vos enfants, et en final, je crois que cette démarche de s'adresser d'abord aux parents avant les enfants, je crois que je trouve cette démarche un peu cynique. Donc j'ai un peu le même problème avec ce livre d'Émile Bravo au départ. Mais faut pas oublier le reste de son œuvre. Et justement, le reste de son œuvre permet de mettre cet ouvrage-là en perspective. Je pense qu'il est sincère en le faisant, et pas cynique. Et surtout, ça le faisait surtout bien rigoler avant tout, quoi. Parce qu'il faut bien avouer que c'est vraiment n'importe quoi et que c'est rigolo. On rit de bon cœur en fait tout du long. Et puis, le dessin est toujours exceptionnel. On va de surprise en surprise. Chaque nouveau personnage ou chaque nouvelle péripétie n'étant vraiment jamais celle qu'on attend. Encore plus drôle que les Sept ours nains, il y a Le Jardin d'Émile Bravo. Enfin, plus drôle, ça dépend pour qui. Qui est paru donc au Requin Marteau, qui est un éditeur qui peut être particulièrement potache, débile, trash et drôle. Et oui, c'est possible. C'est un recueil de récits courts qu'Émile Bravo a fait par-ci par-là. Des BD hors format, des trucs qui font 5 cm, des trucs dans le magazine Ferraille dont il faudrait que je vous parle ici un jour. Et là, on n'est plus du tout, vraiment plus du tout sur de l'humour pour enfants, on est clairement pour adultes. Blagues racistes, blagues avec des nazis, des djihadistes, on est très 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 loin de Jules. Mais qu'est-ce que c'est drôle ? Le décalage entre le dessin et les horreurs qu'il raconte est particulièrement réussi. Et éclaire d'un nouveau jour l'auteur Émile Bravo. Donc même si ces deux livres, je me répète, sont un peu anecdotiques, je vous assure qu'ils méritent d'être lus.
heard about the painter Vincent van Gogh, who loved color and who let it show. Now in the museum, what have we here? The baddest painter since God's Jan Vermeer. And he loved life so bad. His paintings had twice the color other paintings had. So bad that the world had to know. The man loved color and he let it show. Well, in the Amsterdam Museum, I was feeling bad and trying to find a way not to be that sad. I felt the feeling in the room sincere, and Vincent van Gogh, well, he seemed so near. And he loved life like he did. His paintings had the things that paintings keep hid. He loved life so bad that the world had to know. He loved color and he let it show. Okay, so what can we say about this Vincent van Gogh, Ellie?
He loved color and he let it show.
Okay, Michael, now in the museum, what have we here?
The baddest painter since Jan Vermeer.
He loved life with that heart. His pairs took off with the other painters just start. He loved life so bad that the world had to know. He loved color and he let it show. All right, have you heard about the painter Vincent van Gogh, who loved color and who let it show? Now in the museum, what have we here? The baddest painter since God's Jan Vermeer. And he loved life with a passion. His parents said things that parents and children don't do in that fashion. He loved life so bad that the world had to know. The man loved life, folks, and he let it show. Vincent van Gogh, who are we talking about? Vincent van Gogh.
C'était Jonathan Richman avec le morceau Vincent van Gogh. Et on est de retour pour la dernière partie de Qui ou quoi, l'émission bimensuelle de Radio Duo qui vous parle de livres et plus spécifiquement ce soir de bandes dessinées sur le 895 à Saint-Étienne. On continue ce petit tour d'horizon de l'œuvre d'Émile Bravo avec un dernier livre qui, je pense, est important concernant les bandes dessinées qu'il a sorties. Il y a quelques années de ça, en fait, je repars sur autre chose, mais vous allez voir, je vais retomber dessus. Dupuis, donc l'éditeur historique de Spirou, avait décidé de sortir des espèces de reboots de son héros principal, en proposant à des auteurs de sortir leur Spirou à eux. Ça s'appelait, dans une espèce de collection, les Spirou 2. Trois petits points, et puis après l'auteur changeait. Alors ils sont plusieurs à avoir essayé, c'était pas toujours très convaincant. Il y a Franck qui en a fait un sympa, j'ai aussi le souvenir du Spirou de Franck Le Gall qui était bien. Et puis en fait ils ont continué à décliner un peu le truc pour ceux qui voulaient en faire plusieurs, parce qu'il y en a un seul tome, ça leur suffisait pas. Donc ils ont appelé ça « Une aventure de Spirou et Fantasio par ». Et là il y avait plusieurs tomes dans ce truc-là. Et là c'est devenu encore plus compliqué à suivre, pire que de suivre des super-héros dans le multiverse. On pourrait discuter longtemps de la pertinence de ces séries, à qui ça s'adresse, aux cinquantenaires nostalgiques, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt au niveau artistique, est-ce que c'est vraiment juste pour nous soutirer de la thune. C'est un peu comme tous les remakes et autres boots au cinéma, la plupart du temps, rien ne vaut l'original. Mais il y en a quand même quelques-uns. Il y en a quand même quelques-uns qui sortent du lot. Et normalement, vous me voyez venir, il y a ceux d'Émile Bravo. Il y a quelques années, il avait sorti le journal d'un ingénu. Et là où les autres auteurs ne faisaient que coucher sur le papier leur fantasme d'un Spirou qui fait de la muscu ou qui embrasse une fille ou qui combat des nazis, lui, il avait une réflexion plus intéressante et se positionnait par rapport à l'histoire de Spirou dans l'histoire de la bande dessinée. En fait, Spirou, faut le savoir, c'est un personnage qui a été créé par un dessinateur qui s'appelle Rob Vell dans les années 1930. Spirou apparaissait dans des gags d'une seule page. Il était un groom dans un hôtel, quoi. Et en fait, quelques années plus tard, après 1945, Spirou réapparaît sous les traits du personnage qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui est habillé comme un groom, mais qui va vivre des aventures palpitantes. Il a un copain qui s'appelle Fantasio, mais on ne sait pas d'où il sort, etc. Et Émile Bravo, en fait, quand il va créer le journal d'un ingénu, il va essayer d'imaginer ce qui s'est passé entre le premier Spirou et le Spirou qu'on connaît après-guerre. Il va faire le lien en mettant Spirou dans cette période historique de la fin des années 30 et la Première Guerre mondiale. Ça a donc donné une première BD qui s'appelait Le journal d'un ingénu, qui était très très réussie. Mais moi je savais pas qu'en fait qu'il appelait pas spécialement de suite, sauf qu'en fait Émile Bravo, il a passé plusieurs années là à donner une suite à ça, et le premier tome de la suite du journal est d'un ingénu, excusez-moi, est paru en fin d'année dernière, et ça s'appelle L'espoir malgré tout. C'est le premier tome d'une nouvelle trilogie qui va nous mener de 39 à 45 et au Spirou qu'on connaît aujourd'hui. Spirou va donc traverser la guerre et grandir. Et là encore, je me répète un petit peu, on est sur une réussite pour Émile Bravo. On retrouve vraiment tous les points positifs dont je vous ai parlé tout à l'heure en vous évoquant les aventures de Jules. Mais là, en fait, c'est quasiment porté à un autre niveau. Parce que là où Jules s'apportait sur la vulgarisation scientifique, ici, cette vulgarisation scientifique, elle est remplacée par toutes les questions que peuvent poser la Seconde Guerre mondiale. De la philosophie à comment on réagit face à tout ça, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est d'une richesse et d'une profondeur assez étourdissante. Et puis toujours avec ce dessin parfait, ces différents degrés de lecture, l'humour, le rythme, les péripéties, la réflexion, tout ça mélangé dans un espèce d'équilibre parfait. La perfection quand même à ce point, ça a presque de quoi énerver. Tout au plus, on peut se dire qu'au final, si on cherche vraiment un défaut, c'est que le personnage de Spirou, au final, il n'est pas vraiment important. On se demande s'il apporte vraiment quelque chose au récit. Parce que ça pourrait être juste une histoire d'une BD en ligne claire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, en y réfléchissant bien, c'est aussi ça, une histoire d'un personnage qui traverse la Seconde Guerre mondiale. Mais le fait que ce soit Spirou, ça en rajoute une couche méta, comme on dit. C'est-à-dire que je rajoute une couche méta sur, en fait, une réflexion sur l'histoire de la bande dessinée. Par exemple, à un moment, Spirou se retrouve habillé comme Tintin. Et quand on sait la position d'Hergé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, de toute façon, Hergé, d'une manière générale, n'était pas vraiment était plutôt raciste, on va dire. Ça en rajoute encore une couche. Donc, encore un autre degré de lecture. Et au final, c'est ce que je vous ai dit, hein, il est trop fort. J'y vais quand même finir sur ce premier tome. C'est vrai que je fais un peu plus court au final. Tout avait été dit dans les épatantes aventures de Jules, mais Émile Bravo continue de creuser son sillon et de se renouveler et surtout de le perfectionner. C'est assez impressionnant. L'espoir malgré tout est en fait le premier tome d'une trilogie, ça je l'ai dit, qui doit comporter en fait 300 pages qu'il a déjà faites, qui paraissent régulièrement dans le journal de Spirou. Vraiment, je vous encourage à lire tout ça. Normalement, si vous commencez par L'imparfait du futur et que vous arrivez à rentrer dedans, vous arriverez forcément à ce dernier Spirou. Et quand vous aurez fini, ce sera toujours l'occasion de s'écouter un petit Jonathan Richman.
Already been to Paris, already been to Rome. But what did I do but miss my home? I have been out west to California. But I miss the land where I was born. That's what I say. Dum de dum de dum 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 day in old New England. Dum de dum de dum 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 day. Oh, New England. Doodle 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 doodle. Israel's arid plain. It's very pretty, but so's Maine.
Oh, oh, New England.
That's right.
Dum de dum de dum 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 day. Oh, New England. Dum de dum de dum 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 day. Oh, New England.
C'était le dernier Jonathan Richman pour la soirée et nous, on va conclure cette émission de Qui ou quoi. Alors, pour mémoire, je vous rappelle que ce soir, on a parlé de plusieurs livres d'Émile Bravo, des bandes dessinées que je vous conseille vraiment. N'hésitez pas, si vous avez un retour, à le faire, à la radio qui transmettra, ou sur le Facebook de l'émission qui n'est absolument jamais mis à jour. On ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un derrière cette page. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines. Avec le compère Vincent normalement. D'ici là, eh ben, je vous encourage à lire tout Émile Bravo et puis à écouter Jonathan Richman. Bonsoir, à très vite.